avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Acte 1, scène 2, les cheminots de la SNCF poursuivent leur grève contre la fin de leur statut pour les nouveaux embauchés et l'ouverture du rail à la concurrence. Plusieurs conceptions de la mobilité s'affrontent, des grévistes au gouvernement, en passant par la droite, bien embarrassée sur l'avenir des petites lignes et le positionnement face à la grève, vous l'entendrez.
Comment les opérateurs du transport ferroviaire en Europe s'organisent-ils face aux nouvelles conditions de concurrence en Europe? Il n'y a pas de modèle unique, nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Auparavant, nous parlerons de ce sujet qui arrive sur la table du Conseil des ministres aujourd'hui, la loi Élan sur le logement, 66 mesures pour davantage de construction, moins réglementées, notamment sur le handicap. Le gouvernement revient sur l'objectif de 100% de nouveaux logements accessibles, scandaleux pour l'Association des paralysés de France. Les présidents russes et iraniens reçus aujourd'hui à Ankara par leur homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour un sommet tripartite sur la Syrie, enjeu décrypté dans un instant.
Et puis la question du jour dans une quinzaine de minutes. Catherine, faut-il généraliser le stationnement payant des motos et des scooters? On posera la question au journaliste Olivier Razemont.
Bis repetita donc dans les gares. Deuxième jour de grève et un trafic ferroviaire encore très perturbé. La direction de la SNCF prévoit, comme hier, un TGV sur 7 et un TER sur 5 en moyenne, comme pour les Transiliens en Ile-de-France. 34% de grévistes. Le Premier ministre Édouard Philippe a dit entendre hier autant les grévistes que ceux qui veulent aller travailler et de prévenir, depuis l'Assemblée nationale, les clients et usagers de la SNCF ont des jours difficiles devant eux. Les syndicats de cheminots expliquent de leur côté se battre pour l'avenir du rail, pour le maintien des petites lignes, même déficitaires, contre l'ouverture à la concurrence prévue dans la réforme du gouvernement. Emmanuel Macron a fait de la mobilité l'une de ses priorités et promis de maintenir les trains du quotidien. Mais Hakim Kasmi, les élus locaux, les collectivités, les régions notamment, attendent plus que des paroles.
La SNCF doit devenir ce champion de la mobilité du 21e siècle. Et nous devons accompagner par une nouvelle stratégie d'investissement, de planification, cette transformation de nos usages. C'est les corrections à tous ces dysfonctionnements, ces engorgements qui aujourd'hui gâchent le quotidien de tant de nos concitoyens.
Pensez la mobilité de demain en privilégiant les trains du quotidien, délaissés au profit des lignes à grande vitesse ces 20 dernières années. C'était la promesse d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration de la LGV Paris-Rennes en juillet dernier. Sauf que pour y parvenir, il compte sur les régions. Elles devront financer le maintien des lignes, tout comme les travaux de renouvellement, car 30% du réseau TER est en très mauvais état actuellement. Pour Hervé Morin, président des régions de France et de la région Normandie, le gouvernement doit également prendre ses responsabilités.
Pour prendre toujours un exemple normand, la ligne Paris-Granville, qui dessert tout le sud de la Normandie, qui est la région pour laquelle le développement économique est le plus difficile, au moins pour une partie de ce sud de la Normandie. Et donc il est clair que si vous enlevez cette mobilité-là, vous pénalisez l'économie, vous pénalisez des hommes et des femmes qui ont besoin du train pour aller bosser, mais au bout du compte, c'est des territoires qui se videront complètement.
Actuellement, les lignes régionales sont subventionnées à hauteur de 70%, ce qui permet d'avoir les tarifs parmi les moins chers d'Europe, mais pas sûr que cela soit encore le cas avec l'ouverture à la concurrence.
Et hier, les discussions sur la réforme de la SNCF ont commencé en commission du développement durable à l'Assemblée nationale, dans une ambiance parfois électrique, l'opposition s'inquiétant sur l'avenir des petites lignes. Jean-Marie Sermier, député Les Républicains du Jura, interrogeant par exemple la ministre des Transports sur le transfert des petites lignes aux régions, la droite qui a bien du mal à se positionner face à la grève des cheminots. Les LR sont certes favorables à la fin de leur statut pour les nouveaux embauchés, mais ils tiennent encore à incarner la défense des campagnes, des territoires qui seraient oubliés, disent-ils, du président des villes que serait Emmanuel Macron. Un jeu d'équilibriste observé à l'Assemblée nationale par Stéphane Robert.
Difficile pour la droite de s'opposer à ce projet de réforme de la SNCF. La suppression du statut des cheminots, l'adaptation de l'entreprise en vue de l'ouverture à la concurrence, ce sont des dispositions que les Républicains auraient tout à fait pu défendre dans un projet de gouvernement, notamment le député de l'Ain, Damien Abad.
Nous devons soutenir cette réforme parce qu'il en va de notre cohérence et notre colonne vertébrale, mais dans le même temps, nous devons aussi regretter son caractère injuste.
Et tous les députés LR à l'Assemblée nationale sont dans le même cas. Ils soutiennent et en même temps essaient de trouver une bonne raison de s'y opposer. Arnaud Viala, député de l'Aveyron.
On est sur un problème de méthode. Le gouvernement fait le choix de légiférer par ordonnance alors que rien à mes yeux ne le justifie. Nous, on demande à ce que le Parlement puisse débattre.
Si pour certains, c'est la forme qui ne va pas, pour d'autres, c'est le fond. Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais.
Sur le fond, très franchement, moi, mon souci, c'est la préservation du réseau secondaire. Il n'y a rien dans ce projet de loi qui permettra de préserver le réseau secondaire et puis rien qui permettra d'alléger la dette de la SNCF.
D'autres encore, comme Philippe Gosselin, député de la Manche, estiment que pour le moment, avec cette réforme, on ne sait pas bien où l'on va.
Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel sera le contenu de la réforme. On a une obligation qui est une ouverture à la concurrence liée aux obligations européennes, très bien. Mais jusqu'où va cette concurrence ? Est-ce qu'elle joue sur des grandes lignes uniquement, sur les TGV ? Est-ce qu'elle intègre une partie des lignes régionales ou pas ? Vous voyez que les questions, elles sont nombreuses et les réponses très peu nombreuses. C'est bien la difficulté.
Tout ça nous montre une droite bien en peine de se positionner dans ce débat et qui reconnaît hors micro sa gêne et son embarras. À peine un an après la défaite de François Fillon, explique-t-on chez LR, on est encore sonné et en convalescence.
Et les syndicats étudiants se plaisent, eux, à rêver d'une convergence des luttes au mouvement des cheminots. Ils agrègent leur opposition à la réforme de l'accès à l'université, sélection cachée selon eux. La semaine dernière, une douzaine de facultés étaient touchées. Désormais, c'est plus d'une vingtaine de sites partout en France. On y revient dans le journal de 7h30. Eux dénoncent un retour en catimini de l'écotaxe. Les transporteurs routiers et les fédérations patronales s'opposent à la contribution au financement des infrastructures de transport confirmée hier par la ministre Elisabeth Borne. Cette taxe sur les transporteurs routiers pour financer l'entretien des infrastructures déjà existantes et la réalisation de projets sera discuté au Parlement dans les prochaines semaines. L'assouplissement des normes de construction, la réorganisation du secteur HLM, le projet de loi Élan sur le logement, arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Il vise à construire plus vite, mieux et moins cher pour provoquer un choc de l'offre, explique l'exécutif, alors que les besoins sont toujours aussi criants. Mais le texte peine à convaincre, suscitant de vifs débats, notamment sur le handicap. Le gouvernement revient sur l'objectif de 100% de nouveaux logements accessibles en le divisant par 10. Les autres devraient être uniquement adaptables. Scandaleux pour Nicolas Méry, délégué à l'accessibilité à l'Association des paralysés de France.
Il y a un effet pervers parce que pour nous, le concept même de logement évolutif est source de discrimination indirecte. Parce que si vous êtes propriétaire, vous n'avez aucun intérêt à accueillir une personne qui va avancer en âge ou une personne en situation de handicap, parce que du coup, vous êtes obligé de faire des travaux. Parce que ça, c'est un des grands problèmes du projet de loi Élan également. C'est qu'il ne prévoit pas non seulement qui doit réaliser les travaux, qui doit les financer. Or, c'est proprement scandaleux et complètement incohérent et contradictoire avec les données démographiques. Donc là, on va avoir le vieillissement démographique qui va nous exploser la figure. Selon l'INSEE, il y aura un quart de la population française qui aura plus de 65 ans d'ici 10 ans.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Donald Trump veut envoyer des soldats protéger la frontière sud des États-Unis.
La frontière avec le Mexique rendue poreuse selon Donald Trump par le laxisme des autorités mexicaines et les décisions de son prédécesseur Barack Obama. L'ambassadeur du Mexique aux États-Unis a immédiatement fait savoir qu'il avait demandé des explications à la Maison-Blanche sur cet envoi éventuel de militaires à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le Venezuela exige le respect de ses affaires intérieures. Caracas a vertement réagi hier aux critiques d'Emmanuel Macron sur les conditions d'organisation de l'élection présidentielle au Venezuela qui ne permettent pas, selon le président français, un scrutin juste et libre. Le Venezuela confronté à une crise politique, économique, sociale et sanitaire, la malaria, la diphtérie, la tuberculose, la rougeole, le VIH et la gale se propagent à un rythme effréné et l'exode croissant d'une partie de la population vénézuélienne fait ressurgir les risques d'épidémie en Amérique du Sud. C'est le cas en Équateur, comme l'explique notre correspondant Éric Sanson.
Sur le pont frontière de Rumichaca, entre l'Équateur et la Colombie, de grandes tentes blanches ont été installées par le ministère équatorien de la Santé. 24 heures sur 24, malgré la pluie et le froid de saison, docteurs et infirmières vaccinent gratuitement les centaines de migrants vénézuéliens qui font la queue tous les jours, pendant des heures, pour obtenir leur visa d'entrée. Beaucoup n'ont même pas de carnet de vaccination. Dans un pays où 85% des médicaments manquent, selon la Fédération pharmaceutique vénézuélienne, la vaccination est devenue un luxe que beaucoup ne peuvent plus se payer. Parmi les centaines de milliers de Vénézuéliens qui tous les ans choisissent l'exil, certains voyagent malades. Le 27 mars dernier, un garçon de 5 ans est ainsi devenu le premier cas de rougeole importé en Équateur depuis 2011. L'enfant est aujourd'hui en isolement dans un hôpital de Quito et les autorités équatoriennes essayent de se protéger contre de possibles épidémies. Elles ont notamment fait acheter 1,5 million de doses de vaccins. Mais l'Équateur n'est pas le seul pays touché. Pour ne parler que de la rougeole, une maladie très contagieuse et potentiellement mortelle, 8 cas importés du Venezuela ont été détectés au Brésil et plusieurs autres en Colombie, le premier d'entre eux en mars dernier à Medellín.
Ils se retrouvent à Troyes pour discuter de l'avenir de la Syrie. Les présidents russes et iraniens sont reçus à Ankara par leur homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour un sommet tripartite aujourd'hui, le second du genre, entre les trois pays directement impliqués dans le conflit syrien. À l'ordre du jour, la relance d'un processus de pacification sur le terrain et même la mise en œuvre d'un comité constitutionnel chargé de rédiger la constitution de la Syrie de demain. Mais en creux, ce qui se dessine dans ce sommet, Eric Biegala, c'est le partage du pays de la Syrie en zone d'influence.
La relance des zones dites de désescalade en Syrie sera au cœur du sommet tripartite de ce mercredi à Ankara, ont annoncé les autorités turques. L'Iran, la Russie et la Turquie sont en effet co-garants de cet accord conclu à Astana en Asie centrale l'année dernière et qui prévoyait la constitution de 4 de ces zones de désescalade en Syrie où des cessez-le-feu devaient être établis. Sauf que si une certaine réduction des affrontements a effectivement pu être constatée dans certaines régions, notamment dans le sud, ailleurs, les zones de désescalade ont plutôt vu au contraire une escalade des combats ces derniers mois. La région d'Idlib, par exemple, a été attaqué par le régime et copieusement bombardé par l'aviation russe. Sans parler, bien sûr, de la Ghouta orientale, autre zone de désescalade théorique qui n'existe pratiquement plus, résultat de l'offensive du régime sur ce vaste faubourg de Damas depuis décembre. Dans le même temps, la Turquie a lancé sa propre offensive sur le nord syrien, y chassant les Kurdes et se rendant maître du canton d'Afrin. Ce sont aussi ces nouvelles réalités de terrain que Russes, Turcs et Iraniens vont discuter aujourd'hui et peut-être les velléités des uns et des autres de poursuivre plus avant. Les Turcs ont en effet annoncé leur volonté de pousser leur offensive sur le nord-est syrien, là où les Kurdes sont épaulés par les Américains. La perspective de voir s'affronter en Syrie deux membres de l'OTAN ne serait sans doute pas pour déplaire à Moscou, mais Téhéran s'oppose à toute poussée turque vers l'est. Quant au régime de Damas et à ses alliés, russes et iraniens, ils ne font pas mystère de leur côté de vouloir reprendre par la force le gouvernorat d'Idlib où sont aujourd'hui cantonnés quelques éléments de l'armée turque. C'est donc probablement surtout le contrôle du territoire par les Russes, les Iraniens ou les Turcs qui sera discuté aujourd'hui à Ankara par les chefs d'État des trois pays dans une sorte de mini-Yalta moyen-orientale.
Il y a 50 ans, il était assassiné à Memphis le 4 avril 1968 sur le balcon du Lorraine Motel par un ségrégationniste blanc. Martin Luther King est mort donc il y a 50 ans, journée spéciale sur France Culture. Les questions raciales continuent de diviser l'Amérique aujourd'hui avec de fortes inégalités entre noirs et blancs. Le rêve du révérend King est loin d'être achevé. C'est le choix de la rédaction à suivre dans le journal de 7h30. Reportage de notre correspondant Grégory Phillips à Atlanta, dans la ville natale du révérend King.